Bienvenue à vous sur RCC. C'est un printemps un peu différent, pas vraiment comme les autres, avec cette crise du coronavirus. On est avec François Gostini, qui est médecin généraliste à Calenzana. François, bonjour.
Oui, bonjour, bonjour.
Et bienvenue.
À tous les auditeurs de RCC.
Alors, François, vous êtes très impliqué sur le terrain. On entend beaucoup de choses, ça et là, notamment grâce ou à cause des réseaux sociaux qui peuvent être intéressants dans certains moments, mais des fois aussi très mauvais avec pas mal de fake news. D'abord, première question, François, comment ça se passe sur le terrain, et notamment la Balagne?
Bien, écoutez, nous sommes tout à fait en phase de préparation, voire au-delà, puisque on a déjà mis les médecins libéraux en collaboration, bien évidemment avec nos collègues infirmières et les autres professionnels de santé, mais aussi avec l'hôpital de Calvi, une stratégie en place qui est presque finalisée, on va dire, et qui est en train de se finaliser et qui montre une nouvelle fois la collaboration étroite entre l'hôpital et la médecine de ville, on va dire. Alors, comment elle s'organise cette phase en différentes domaines. Alors d'abord, ce que l'on doit marteler, ce que je veux rappeler absolument, vous le savez, c'est le respect absolu des mesures de confinement. Quand je dis absolu, c'est-à-dire que trop de soignants nous font remarquer sur des plateformes de communication que l'on a mis en route, que les gens semblent être, pour beaucoup, malheureusement, déconnecté des réalités actuelles de cette épidémie qui nous frappe et qui va arriver comme une vague en Balagne qui est, je pense, et mes collègues aussi le pensent, déjà très, très introduite dans notre territoire.
Oui, François, quand vous dites que cette vague va arriver, en fait, on n'en est qu'au début.
Exactement, nous n'en sommes qu'au début. Pour ça qu'il nous reste encore un peu de temps. Et c'est ça qui est important à dire, c'est que par rapport à l'Italie, nous avons été avertis un peu en amont de ce qui allait arriver. Et de ce fait, nous pouvons encore nous préparer et être prêts à amortir cette vague. Je rappelle que ce petit virus, ce petit microbe qui porte le nom de corona, qui veut dire couronne, est vraiment extrêmement petit et pénètre notre organisme au plus profond. Il est transmis par les gouttelettes de salive essentiellement, par d'autres fluides corporels, mais essentiellement par les gouttelettes de salive, d'où l'importance de garder en mémoire et d'appliquer ce qu'on appelle les mesures barrières. La première mesure barrière, c'est la distance. C'est pour ça que l'on dit aux gens qu'il ne faut pas qu'ils soient nombreux dans les voitures, d'accord ? Il ne faut pas plus d'une personne, sauf si la deuxième personne doit être amenée parce qu'elle ne sait pas conduire, parce qu'elle doit aller chez le médecin, pour des raisons extrêmement importantes qui sont précisées dans les circulaires que les gens ont eues, dans ce petit papier que les gens ont eu. Il ne faut pas être dérogé à ça. Pas de rencontre sur la place, pas de café ensemble. C'est comme ça, c'est difficile, mais c'est quand même moins contraignant qu'une guerre telle que nos anciens l'ont connue. Même si c'est une guerre qui est masquée, on doit le faire comme ça, quoi. Voilà.
Donc ça, c'est disons les gestes barrières de base. Se laver
ça,
également les mains.
Des gestes barrières. Le deuxième des gestes barrières, bien entendu, c'est se laver les mains de manière régulière. Si on n'a pas de gel hydroalcoolique, évidemment, il y a l'eau et le savon qui sont efficaces. En passant au moins 30 secondes ou une minute à se laver les mains. Éviter trop de contacts aussi. Vous savez, les boutons d'ascenseur, les poignées de porte, tout ça peut être sur les matières inertes. Le virus, il va durer quelques heures, même sur les habits. Oui. Mais bon, aujourd'hui, les études prouveraient que, par exemple, les habits, lorsqu'on les laisse une nuit, sans les toucher et tout, le virus, même s'il est détectable sur les habits, semble être mort et non plus contagieux. Donc, de ce fait-là, il y a des protections. Donc, ensuite, ce qui est pour nous assez intolérable, il faut dire, pour les soignants, c'est qu'on voit beaucoup de gens se balader en ville avec des masques qu'on appelle FFP2, qui sont des masques réservés à des cas importants, c'est-à-dire normalement pour les soignants lorsqu'ils font des actes invasifs, c'est-à-dire lorsqu'on doit soigner des personnes atteintes par le virus et qu'il faut les soigner, il nous faut ces masques-là. Et comme il y a une carence importante, évidemment, ça paraît, pour nous, c'est indécent que les gens se baladent avec ces masques-là, c'est même honteux. Et on demande, nous, franchement, aux gens de ne pas faire ça et de éventuellement se mettre un masque lorsque ils ont autour d'eux ou bien lorsqu'ils sont eux-mêmes contagieux ou s'ils sont en présence de personnes que l'on dit porteuses du germe. Sinon, il ne faut pas porter de masque FFP2. C'est absolument indécent pour les soignants qui, eux, en ont de manière vitale besoin. Et puis, comme vous le savez, pour qu'on puisse être soigné, il faut qu'il y ait des soignants. Et pour cela, il faut les préserver, quoi.
Voilà. Oui. Et en plus, alors, je ne sais pas si vous allez me le confirmer, mais en plus, j'entends dire que ça ne sert à rien, en fait, de mettre de masque si on n'est pas malade.
Évidemment. Évidemment, ça ne sert à rien. Le masque chirurgical n'est important que si on est malade ou si on est en contact des malades et nous-mêmes soignants. De toute façon, pour l'instant, nous soignants, nous n'avons pas, pour la plupart, pas de masque FFP2. Alors, les consignes sont, lorsqu'on a un patient qui est malade, qui est porteur supposé ou confirmé, eh bien, on met un masque au malade et on se met un masque nous-mêmes. Voilà, c'est comme ça que l'on doit procéder. Ensuite, évidemment, dans les hôpitaux, puisque je suis aussi médecin hospitalier, oui. Hein, parce que je suis gériatre et je suis chef de service d'unité de soins de longue durée de Calvi, où il y a des personnes âgées. Évidemment, actuellement, elles sont confinées, complètement confinées, puisque du fait de leur fragilité, et ça, c'est pour nous un déchirement, parce que de savoir que leur famille ne vient pas les voir, c'est pas facile pour elles, bien entendu, pour les familles, évidemment. Alors on essaye d'être en contact très fréquemment avec les familles pour les rassurer, leur dire que tout va bien, que leurs parents, leurs amis sont chez nous protégés. Pour l'instant, il n'y a pas de crainte à avoir. Le personnel est très attentif et redouble d'affection et d'attention pour nos vieux, je dirais.
D'accord. Voilà. J'ai quelques questions. J'espère, François, que je ne vous dérange pas parce que je sais que vous avez beaucoup
non,
de travail.
Non.
Autre question, il y a beaucoup de gens qui nous disent, oui, quand tu vas faire tes courses au supermarché, surtout, lave tous les emballages, etc., etc., parce que le virus se met partout, notamment sur le carton, sur le plastique, etc.
Alors, évidemment, aujourd'hui, alors, on sait...
On m'a même parlé du pain. On m'a dit, attention, le pain, c'est dangereux aussi.
Le pain, alors. Bon, d'abord, au niveau des boulangeries, si vous le remarquez, parmi... toutes les boulangeries, les gens qui vendent du pain ont des gants maintenant et font attention. Ensuite, alors sur les matières dites inertes, en règle générale, le virus, il survit 3 heures environ. C'est là à peu près la règle. Mmh. C'est-à-dire que, alors, survivre 3 heures, ça veut dire que si on est en contact avec une matière inerte qui porte le virus, eh bien... si on reste un quart d'heure à la main appuyée sur le bouton, évidemment, ce qu'on appelle la charge virale, c'est-à-dire le virus va pénétrer, enfin va non pas pénétrer notre main, mais va être sur notre peau pendant un moment. Hein. C'est la quantité de virus qui est importante, c'est la virémie, c'est la quantité de virus. Mais on sait que sur une matière inerte, au bout de 3-4 heures, il y a la demi-vie du virus, c'est-à-dire la moitié des virus vont disparaître. Donc, si lorsqu'on a été en contact avec quelque chose, si après on se lave les mains quelque temps après, sans se mettre la main au visage, ça c'est important, ne pas se frotter la main au visage et tout, s'il faut apprendre ces gestes-là, c'est après ça devient un automatisme de ne pas le faire, eh bien on se protège. Il faut pas avoir cette psychose, on peut aller faire ses courses au supermarché, oui. Simplement, au retour après, il faut se laver les mains. Quand on rentre à la maison, on se lave les mains, on essaie de pas se toucher le visage. Évidemment, si on a un petit gel hydroalcoolique, c'est encore mieux, mais je sais que beaucoup de gens n'en ont plus ou n'en ont pas, et même nous, on n'en a presque pas, donc évidemment, l'eau et le savon, c'est très bien. Maintenant, mettre des gants, c'est pas non plus très utile. Pourquoi ? Parce que vous allez mettre des gants, eh bien, si vous touchez un espace où il y a du Covid, où il y a du virus, eh bien, avec ces gants, après, vous allez le transmettre un peu de partout avec vos gants. D'accord? Aussi bien qu'avec vos mains. Donc, c'est pas efficient non plus. Donc, l'important, c'est de se laver les mains fréquemment. Alors après, quand on a fait ses courses, eh bien, les sachets, on les laisse un peu dehors. On peut déballer les courses et laver, par exemple, les légumes, les fruits, les laver. Pas besoin de mettre du savon ou de l'eau de Javel. Alors, l'eau de Javel est très stérilisante pour le virus, hein, comme l'alcool à 90 degrés, ça nettoie, mais c'est pas la peine non plus de s'acharner à tout nettoyer.
D'accord.
D'autant plus que, ben, si on épluche les fruits et si on les mange, bon, dans l'estomac, le virus, il va disparaître, hein, il va être. Le problème, c'est l'inhalation, hein, c'est par la voie nasale ou par la voie respiratoire, c'est ça le problème, quand on le respire.
D'accord.
C'est pas donc c'est pour ça que les gouttelettes c'est important parce que ça nous projette sur le visage pour la plupart du temps, c'est ça dont il faut se préserver.
Donc
voilà.
Il faut créer cette fameuse barrière des 1 mètre à 1 mètre 50 quand on est.
Ah oui, ça c'est ça. Voilà, la barrière d'un mètre à 1 mètre, 1 mètre 50, c'est absolument indispensable. Voilà, ça c'est très très important. Parce que voilà, c'est pour ça qu'il faut marteler ça. La mesure barrière, c'est le plus important, quoi. Voilà. Ensuite, comme je disais tout à l'heure, en parlant des personnes âgées qui sont dans l'USLD, évidemment, l'important c'est de prémunir les personnes âgées qui seront les plus altérées par s'ils attrapent le virus et certaines personnes fragiles. On sait aujourd'hui que les gens qui ont des diabètes, qui ont un surpoids important, qui ont des pathologies immunitaires déficientes, eh bien ils seront plus exposés, ou des gens qui ont des traitements immunosuppresseurs. Hein. Donc ces gens-là, évidemment, les mesures barrières doivent être encore plus contraignantes. C'est pour cela que, à l'unité de soins de longue durée, les gens, les patients, ils restent dans leur chambre. Alors, évidemment, pour certains, on les fait manger au réfectoire, pas tous, parce que certains ne sont pas en capacité, mais d'autres, parce qu'ils ont besoin d'une petite vie sociale, on va dire. Eh bien, pour pas les couper complètement de la vie sociale, eh bien, on va les faire manger dans le réfectoire en prenant des précautions drastiques, bien évidemment. Mais voilà, c'est sûr que ce sont des contraintes qui paraissent lourdes, qui sont lourdes, hein, dans une vie qui n'était pas celle-là il n'y a que quelques semaines, hein. Mais comme on le dit aujourd'hui, et c'est une réalité, c'est que c'est une guerre, et il faut le prendre comme un combat quasi quotidien. Mmh. Nous, on est, pour les soignants, que ce soit les infirmières, que ce soit les kinés, que ce soit tout le personnel de santé, franchement, on est sur le pont du matin au soir et du soir au matin. On a, franchement, en Balagne, vous savez, y a une solidarité professionnelle qui est exceptionnelle. Que cela soit avec l'hôpital de Calvi, que cela soit avec les soignants de ville, hein, les médecins de famille, les infirmières libérales, franchement. On a créé des groupes de discussion avec, parfois, vous savez, Internet, ça peut être intéressant, et les réseaux sociaux, ils peuvent être intéressants, ils ne le sont pas toujours, mais dans certains domaines, oui. On a créé des petits groupes de parole et, où on partage des infos qui sont pertinentes, des infos scientifiques, on voit les expériences qui se font ailleurs. C'est quelque chose de tout à fait nouveau. En effet, ce virus, il est émergent, il n'existait pas, il est apparu. En Chine, probablement. Et d'ailleurs, en Chine, déjà au mois de décembre, ils avaient senti ce passage du virus de l'animal à l'homme. Ils avaient déjà un peu alerté. Puis après, il a commencé à flamber en janvier. Là-bas, ça a été très drastique. On a, comme vous le savez, mis en confinement très rapidement des millions de personnes, parfois de manière très contraignante, avec des personnes enfermées chez elles qui n'avaient pas le droit de sortir. Il y avait même des distributions de nourriture à la maison. Les gens ne pouvaient pas même pas se déplacer. Et ça a été ce prix à payer pour que finalement le virus tout doucement s'éteigne. Bon, là, on garde des espoirs quand même. Hein. Je veux pas que cela soit que des notes négatives, mais bon, je parle beaucoup. Posez-moi des questions.
Oui, non, mais c'est très intéressant, docteur. Moi, on va en savoir plus parce que on est évidemment tous touchés, notamment évidemment notre micro-région, la Balagne. Justement, la Balagne. Le préfet, il y a encore quelques heures de cela, annonçait quasiment, enfin, pas de cas, et finalement, il y en a. D'ailleurs, il y a un centre qui a ouvert, je crois, à Lille-Rousse, hein. Ça.
Alors Oui, tout à fait. Alors, c'est ce que l'on demande à nos patients, à tous les patients, à tous les habitants de Balagne. On leur dit, voilà, la situation. Alors d'abord, il faut savoir que pour ceux qui ont du secrétariat, les secrétaires sont formés à la réponse. Elles sont adaptées, elles savent comment il faut répondre et les gens peuvent appeler un secrétariat. Déjà, on peut leur donner des conseils téléphoniques. Ensuite, nous avons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, été très réactifs et en 48 heures, grâce aussi à la collaboration de personnes qui n'étaient pas des personnes de santé, mais qui nous ont entendus et écoutés, on a mis en place à l'Île-Rousse une sorte de post-médical avancé. Alors, ce n'est pas le bon terme post-médical avancé parce que ça, c'est plutôt militaire le post-médical avancé ou de soins hospitaliers parce qu'il faut des lits, tout ça. Mais si vous voulez, c'est un lieu qui est protégé, qui est adapté pour faire des consultations de personnes qui présentent des symptômes respiratoires, d'infection, qui pourraient être le coronavirus, mais peut-être pas aussi, qui peuvent être des infections respiratoires qui n'ont pas rien à voir avec cette pathologie-là. Mais pour cela, on s'est organisé. Il peut pas y avoir comment dirais-je, d'arrivage direct. C'est pas un cabinet ouvert, pas du tout. C'est très organisé. Il y a un numéro de téléphone que je vous donnerai tout à l'heure. Il faut appeler ce numéro et il y aura quelqu'un qui répondra. Il faut prendre un rendez-vous pour y aller et on y va seul. Il faut attendre dehors, on prend les gens les uns après les autres, etc., etc. Ils seront examinés correctement et tout. Il y a cette possibilité-là. La deuxième possibilité, c'est la télémédecine. Des médecins proposent à leur patientèle de faire des consultations de télémédecine. Alors la télémédecine, en ce qui concerne cette pathologie-là, elle est très intéressante dans la surveillance, peut-être pas essentielle pour le dépistage. Je veux dire par là que la télémédecine, c'est souvent un peu fastidieux, un peu long à faire. Alors, comment ça se passe, la télémédecine? Il faut que, d'abord, le patient, qu'il soit en capacité, et il soit aussi équipé d'un ordinateur ou d'une tablette ou d'un téléphone qui permette la navigation Internet, il faut qu'il se connecte à une plateforme que son médecin a, hein, et qui va lui pouvoir, en se connectant à une heure donnée, en prenant un rendez-vous sur cette plateforme avec son médecin, mais discuter avec lui, le voir et éventuellement exposer son problème. Alors, c'est bien la télémédecine, surtout dans les pathologies chroniques. Par exemple, quelqu'un qui a une pathologie chronique, qui a besoin de renouveler son traitement, mais qui n'a pas besoin immédiatement de voir le médecin, son médecin, mais grâce à la plateforme, il peut l'appeler, tout ça, et il peut avoir un renouvellement d'ordonnance s'il a chez lui une imprimante, ou bien l'ordonnance peut être directement envoyée à son pharmacien. Voilà.
D'accord.
Ça, c'est la première des choses. Alors ça, c'est une des possibilités, une deuxième possibilité. Et puis ensuite, ce qui est important pour nous dans le suivi du patient coronavirus, parce que vous l'avez entendu comme moi, tout le monde est au courant, les symptômes au départ sont des symptômes plutôt banaux, hein. C'est un rhume, c'est des maux de gorge, c'est une espèce d'oppression thoracique, parfois une toux, des maux de tête, une température qui n'est pas très haute au début, 37,8, 38, un peu moins que la grippe, on va dire, hein. La grippe, c'est on a des frissons, on a une fièvre très très forte, bon. Donc des symptômes comme cela qui peuvent. Alors il y a d'autres symptômes, c'est la diarrhée, bien plus rare, mais il peut y avoir des phénomènes de diarrhée. Et ensuite, il y a parfois, même souvent, c'est les ORL qui nous ont alerté là-dessus, il y a souvent ce qu'on appelle une agueusie et une anosmie. Alors c'est-à-dire on a une perte du goût et une perte de l'odorat.
D'accord.
D'accord?
Ouais.
Et donc ça, c'est un signe aussi, hein. Donc quand il y a ces symptômes-là, il faut téléphoner à son médecin traitant, éventuellement, ou bien à cette plateforme, je vais vous communiquer le numéro tout à l'heure, pour savoir ce qu'il y a lieu de faire. Et en effet, quand on a ces symptômes-là, bon, le médecin, souvent votre médecin, va vous dire, ben, vous allez rester à la maison. Vous allez peut-être prendre des précautions encore un peu plus drastiques pour pas le transmettre, l'éventuel coronavirus,
à vos proches,
qui est pas sûr,
ouais.
À vos proches,
Mmh.
encore des contraintes un peu plus, mais c'est pas la peine d'en faire plus. Vous n'allez pas aller à l'hôpital, on va pas vous donner un antibiotique, il n'y a pas d'antibiothérapie qui
Ah,
marche.
d'accord.
Bon. voilà, on n'a pas d'antibiotiques qui marchent, il ne faut pas aller à l'hôpital. Ça ne sert à rien, ça va engorger l'hôpital. C'est d'ailleurs ce qui a fait aussi un peu le drame de l'Italie, c'est que les gens se sont précipités à l'hôpital, ils ont engorgé l'hôpital. Aujourd'hui, on sait que les complications souvent arrivent entre le 6e, 7e, 8e jour. D'accord ?
Oui.
Donc, il ne faut pas se précipiter. Nous, ce qu'on propose, ce qu'on va proposer, ce qu'on propose déjà à nos patients, c'est qu'on fait une garde téléphonique ou une garde par téléconsultation régulière. Ça peut être, certains disent une fois par jour, d'autres toutes les 48 heures, après à la 72e heure, et puis après à 6e, 7e ou 8e jour, pour savoir s'il y a des complications qui s'installent. Voilà. Et c'est là où on va décider, éventuellement, avec, bien entendu, l'appui, cette fois-ci, de l'hôpital et du SAMU, de l'orientation du patient. Ou bien ça sera une hospitalisation simple, dans la plupart des cas des complications. C'est une hospitalisation simple et une surveillance. Et parfois, malheureusement, ça sera quelque chose de plus contraignant, c'est peut-être la réanimation et voilà, et tout le reste. Donc, vous voyez bien que il ne sert à rien de se précipiter chez son médecin, hein, de faire le forcing à la porte du médecin, parce que moi, ce que je souhaite aussi, et ça, j'appelle mes confrères à ça, c'est que il ne faut pas accueillir dans ces cabinets, dans nos cabinets propres, les patients directement, parce que ben on s'expose aussi et que si on tombe malade, on pourra plus le soigner non plus et ça augmentera le risque des patients. Donc nous, pour l'instant, par exemple, ce qui concerne les cabinets de Cagliari et de Calenzane, enfin la maison médicale de Calenzane, on procède ainsi, la porte est fermée. Les patients qui ont besoin d'un renouvellement d'ordonnance ou qui ont toute autre pathologie, parce qu'il faut continuer à soigner les autres malades,
bien sûr,
évidemment.
Bien sûr.
Évidemment, les malades chroniques qui ont besoin de voir le médecin, on reçoit ces malades-là avec, évidemment, beaucoup, beaucoup de précautions pour eux et pour nous. Beaucoup, beaucoup de précautions avec des mesures barrières drastiques. Et on ne reçoit pas les gens infectés. Voilà. Et ce que je demande à mes collègues médecins, c'est de faire barrière à cela et d'orienter leurs patients vers ce centre d'île rouge, ou bien de faire de la téléconsultation, ou bien de donner des conseils téléphoniques. Mais ne pas recevoir en direct les patients qui pouvaient être potentiellement infectés, parce que, ils ne pourront pas faire grand-chose pour eux, et puis le patient infecté, c'est pas non plus un pestiféré, quoi. Je veux dire, on va lui indiquer ce qu'il va faire, comment il va faire, où il va se mettre, comment il va se protéger et protéger les autres, et c'est beaucoup plus efficient que de faire n'importe quoi, quoi. L'organisation dans une guerre, c'est essentiel. Voilà.
Docteur, encore quelques minutes et après je vais vous laisser parce que
oui.
Je sais que vous avez du travail.
Allez-y, ça me paraît important,
Oui, ouais, nous aussi sur RCC, je pense que les gens vont écouter. L'autre chose qu'on voudrait savoir, même si évidemment c'est pas précis, mais on annonce donc une vague à vraiment un pic, c'est à peu près quand ce pic en fait.
Alors, c'est difficile à dire. Nous justement, on voudrait pas qu'il y ait le pic. Ce qu'on veut, vous savez, dans tout système de lutte épidémiologique, d'épidémie, on veut écrêter ce fameux pic. Ça veut dire quoi? On a vu à la télé ces courbes qui montent d'un coup, puis la courbe plus plate. Ce qu'il faut qu'on évite, c'est justement qu'il y ait trop de patients atteints en même temps. Voilà.
D'accord.
Ça, c'est un des premiers. Parce que, vous savez, on dit que la diffusion du virus, c'est R2,5 à R3. Ça veut dire qu'un patient, il en infecte 2,5 d'autres ou 3. Donc 1 sur 3, les 3 vont en infecter 3. Si vous avez fait un peu de mathématiques, vous voyez un peu comment ça monte en exponentiel.
Ouais,
hein,
ouais.
Alors que si on réussit à justement à diminuer ce taux-là, ben la diffusion elle sera moins rapide. Et là, on peut prendre les gens en charge. Actuellement, on a 25 lits de réanimation à Bastia. On a poussé les murs, ils ont mis en pédiatrie des réanimations, et il y en a 25 à Ajaccio aussi. Et on pense que la vague sur Ajaccio devrait arriver ces quelques jours, quoi. Hein. Ces quelques jours, parce qu'Ajaccio est un cluster, comme on l'appelle, c'est un foyer,
ouais.
Un foyer d'infection. Le cluster, c'est un terme anglais, mais c'est un foyer d'infection, hein, pour être clair, où il y a beaucoup de gens qui sont infectés. Donc la vague risque d'arriver brutalement. Et là, le système de santé, il est en danger, quoi. C'est pour ça qu'il faut pas que les gens soient infectés de manière. Et puis, si on peut, si grâce à notre force, à notre solidarité, à notre force de conviction, à ce qui fait aussi un peu notre âme. Hein. Je sais que on aime bien s'embrasser, on aime bien se toucher, on aime bien discuter de près. Là, c'est vrai que ça change beaucoup de choses, mais il faut qu'on soit fort à ce point de vue-là. Et ça, c'est faire sens, faire peuple, c'est aussi ça, c'est réussir à garder ses distances. Ça, c'est hyper, hyper, hyper important. Et alors, je vous dis une dernière chose, si vous permettez, mais qui me paraît essentielle. Nous sommes pas mal de praticiens, de médecins, qui militons vers un dépistage plus massif. Alors aujourd'hui, on va dire la doxa, ou en tout cas les recommandations sont de dépister, de faire du dépistage sur des populations qui sont ou bien très atteintes, ou bien des signes cliniques évidents, ou des complications. Bon, il nous semble qu'il faille dans des endroits comme la Balagne, comme certains lieux où il n'y a pas encore une explosion virale, on va dire, de malades infectés, il nous semble important de dépister. Bon, il faut que vous sachiez que si on a un cas suspect en Balagne, il faut qu'il aille à Bastia, ou alors un cas probable, plus que suspect, probable, il faut qu'il aille à Bastia se faire dépister. Bon, déjà, peut-être pour ça aussi que jusqu'à il y a 3 jours... le préfet disait en Balagne zéro cas, mais on ne trouve que ce que l'on cherche. Si on ne cherche pas, on ne trouve rien, évidemment.
Bien sûr, bien sûr.
Voilà, donc on sait que voilà, là il y a des cas en Balagne parce qu'ils sont allés à Bastia se faire dépister. Donc nous, ce qu'on voudrait, ça, sincèrement, c'est que on puisse faire des prélèvements en Balagne. Aujourd'hui, il y a des capacités en Corse, un laboratoire à Ajaccio est accrédité, il peut avoir un laboratoire aussi à Bastia qui peut l'être. Pour analyser vite, et c'est important pour nous d'avoir des données rapides, objectives. Et on a les capacités encore de le faire. Le prélèvement, c'est pas très difficile, hein, même s'il faut se protéger et tout, mais c'est pas très difficile à faire. Il faut pas besoin d'avoir une tenue de cosmonaute, même si on est, s'il faut se protéger. Le prélèvement, il peut être fait sans trop de difficultés, avec des règles strictes, bien sûr, de mesures barrières. Et ensuite, si on a des réponses rapides, justement le plus rapide possible, des résultats rapides, on pourra éventuellement, lorsque là, des mini clusters, on va dire, on va les mettre, on va les isoler, on va faire des isolats, on va les isoler, et ça peut diminuer la diffusion du virus. Et on en a des preuves, puisqu'en Italie, il y a des régions où ils ont fait ça, et ça a diminué considérablement la diffusion du virus. Ça, c'est la première des choses. Et puis, Si par bonheur, il y a un traitement qui marche, des traitements qui sont à l'essai aujourd'hui, qui ont été développés par le professeur Raoult à Marseille, mais bon, c'est les Chinois qui ont d'abord expérimenté. Hein. Bon, si par bonheur ces traitements-là marchent, il va falloir les donner à des gens, parce que c'est pas des bonbons, c'est des traitements qui ont aussi des effets secondaires, bien entendu. Il faudra les donner à des gens pour lesquels on a des diagnostics. Le diagnostic, il n'est pas uniquement clinique, il est aussi biologique. C'est quand on fait cette fameuse PCR ou qu'on fait ce prélèvement. Pour donner le traitement, il faut qu'on ait des éléments tangibles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est toujours intéressant d'avoir un diagnostic pour pouvoir éventuellement donner un traitement, si, par bonheur, ce traitement marche. Voilà. Et j'avoue aussi, une dernière confidence, c'est que nous sommes quelques praticiens, quelques médecins en Corse qui ont essayé, avec leurs faibles moyens, de dire, voilà, pourquoi la Corse ne serait pas une zone, justement, d'expérimentation thérapeutique? Pourquoi en Corse on ne pourrait pas, justement, essayer ce traitement dans certaines régions, dans les CH, le CH de Bastia ou CH d'Ajaccio, justement, pour voir si il y avait une efficacité. Ça serait bien qu'on puisse être zone d'expérimentation thérapeutique aussi. Voilà, ça c'est peut-être de la responsabilité, évidemment, des pouvoirs publics et des ministères, ou alors des virologues, je ne sais pas trop, mais en tout cas, si on fait un peu, on lance aussi ce souhait, quoi, hein. Je sais que pas tout le monde n'est d'accord sur ce principe-là, mais moi, je, devant la gravité de la situation, je me sens de le proposer encore une fois et de le dire. Voilà.
Merci François Gossine pour toutes ces réponses et puis
C'était
quelques
un peu long,
non non pas du tout parce que non mais en plus je pense que les gens enfin je dirais que moi je suis rassuré en tout cas déjà personnellement de vous entendre c'est important en plus
je vais dire encore une dernière chose,
oui.
après je vous laisse. Écoutez, on a beaucoup d'espoir dans les vaccins, bien entendu. Écoutez, moi je pense franchement que ce virus-là, il peut être accessible à un vaccin. Mais un vaccin, il y a un temps, hein, pour le fabriquer. Il y a un temps, évidemment, de recherche, il y a un temps, d'expérimentation. Il faut pas qu'il soit dangereux, bien, il y a des temps de vérification, évidemment. Mais on connaît bien ce virus. On a avancé très très vite. L'Institut Pasteur a décelé sur la périphérie du virus cette fameuse protéine de surface qui est cette protéine qui permet à ce que le virus rentre dans la cellule humaine, je dirais. Là, on l'a déjà décelé, on est allé très très vite. Ça, c'est une avancée considérable. C'était il y a déjà quelques semaines. Donc, on connaît bien le virus. Et là, on est déjà en phase d'expérimentation et de mise au point de vaccin. Donc, probablement qu'un vaccin sera trouvé et sera mis en place dans les mois, peut-être années, maximum une année qui viennent. D'accord? Donc ça, c'est un grand espoir. Il y a l'espoir thérapeutique, il y a l'espoir vaccinal. Donc ça, il faut aussi le savoir. Il faudra du temps. C'est pour ça que il faut nous laisser le temps de à la fois soigner, chercher, se concentrer sur tout ça. Et pour cela, je le dis pour maintenant conclure mon propos, il faut absolument que les gens suivent les mesures barrières. C'est hyper, hyper important. Voilà.
François Agostini, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. On va vous laisser travailler. Il y a beaucoup de gens qui sont là, qui vous attendent, j'imagine, pour avoir d'autres informations. François, écoutez,
Merci.
j'espère en tout cas qu'on pourra vous retrouver prochainement sur RCC selon l'évolution de ce
Bien
coronavirus.
sûr. Écoutez, on fera le point si vous voulez, quand vous voulez, quand vous ferez appel à moi, j'essaierai de vous informer au mieux. Merci.
Merci
Merci à
François.
vous.
Et comme François n'a pu le faire, je vous donne de suite le téléphone du centre d'accueil Covid-19 Balagne. C'est le 06 40 47 94 14. Donc, consultation médicale sur rendez-vous dédié aux patients présentant des signes d'infection au Covid-19, toux, fièvre. Ne vous présentez pas dans le cabinet habituel de votre médecin. Contactez le 06 40 47 94 14, c'est le centre d'accueil Covid-19 à Lyrousse. Venez avec un masque si vous en avez un. En cas de toux et en cas de difficulté ou détresse respiratoire, appelez le 15.